comme je vous l'ai dit, on prend Jean chapitre 17 au verset 14. Et puis, on va aller plus loin en parlant de l'unité de l'Église. On a compris que cette composition miraculeuse, ce fondement, ce socle dont nous avons parlé la semaine dernière, est déjà un facteur d'unité, mais on peut aller encore plus loin. Et il faut aller plus loin. Jean chapitre 17, verset 14. Jean 17, 14, c'est la prière sacerdotale, on n'en prend seulement qu'une petite partie. C'est la prière de Jésus. Je leur ai donné ta parole, il est question justement de nous, de ses disciples, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, leurs témoignages, afin que tous soient un, comme toi et moi, Père, tu es en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous ne trouvez pas qu'il insiste un peu beaucoup, le Seigneur, dans sa prière? Voyez ce qui préoccupait Jésus réellement avant son œuvre à la croix, avant de quitter cette terre. Ce qui préoccupe Jésus, la préoccupation majeure, fondamentale, ce n'est pas de savoir le nombre de miracles qui passeront par vos mains. Ce n'est pas le nombre de personnes qui seront... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous allez expérimenter, ce n'est pas le nombre d'exaucements, de bénédictions, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. La préoccupation majeure de Jésus avant de quitter cette terre, avant d'aller à la croix, c'est qu'il soit un. Et ça ressort en l'espace de quelques versets, déjà le Seigneur en parle 4 fois. Et là, qu'il soit parfaitement un, verset 23, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen, je laisse ici la lecture. On va considérer ensemble, pour aller plus loin ce matin, ce que n'est pas l'unité, parce qu'il y a des fausses conceptions de l'unité qui circulent évidemment dans les milieux, dans les églises. Et puis on va aller plus loin aussi sur ce qu'est réellement l'unité dans la pensée de Jésus. Le chiffre de l'Église, c'est 1. Le Seigneur insiste largement, sans lui manquer de respect pour ne pas dire lourdement, sur le fait que le chiffre de l'Église, c'est 1. Je sais que les chrétiens ou les pasteurs aiment souvent, en parlant ensemble, se demander « Il y a combien de membres dans ton Église ?» Et là, ceux qui ont 300, 400, 500 membres ont une certaine fierté. Quoique, attention, hein, vous savez, quand on a une église de 500 membres dans une région qui fait 1 million d'habitants, il n'y a pas de quoi, crier cocorico. Tout est très relatif. Puis on aime dire, ah ben nous, on est 80, nous, on est 150, nous, on est... J'aimerais tellement que tout ça, ça ne compte pas, et j'aimerais qu'on puisse se dire les uns aux autres, vous êtes combien dans ton église? Ah ben nous, on est 1. Et toi, dans ton église, là-bas, vous êtes combien? Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que nous, on est 1. Et c'est ça la pensée de Dieu, c'est ça le chiffre de l'Église. Le chiffre de l'Église, ce n'est pas 100, 200, 300, 400, 500. Le chiffre de l'Église, c'est 1. Parce que comme nous l'avons évoqué, l'unité évidemment est spirituelle, mais on va préciser le propos et aller plus loin sur nos sentiments et notre cœur, notre âme, notre pensée. On va aller voir ça un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vraiment que l'on comprenne ce que n'est pas l'unité, parce que beaucoup se sont fourvoyés en essayant de constituer des unités qui finalement étaient charnelles et qui n'ont absolument rien emmené. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ah, j'ai perdu la main. Vous pouvez revenir en arrière, frère, s'il vous plaît. Merci beaucoup, on reste là. Parfait, merci. Bien comprendre dans un premier temps que l'unité, ce n'est pas de l'uniformité. L'unité n'est pas du conformisme et l'unité n'est surtout pas de l'œcuménisme. On va être clair. L'uniformité, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. L'uniformité, c'est ce qui, dans la définition du dictionnaire, ne présente aucune diversité. On parle de l'uniformité d'un lotissement. Vous allez dans un lotissement et les maisons, vous apercevez qu'elles ont toutes été faites pareil parce que ça coûte moins cher. Vous avez l'uniformité d'un lotissement. Vous avez des corps armés comme la police, la gendarmerie, qui ont des uniformes. Et on veut manifester, et certains mouvements ont essayé de manifester une certaine forme d'unité, ont essayé de fédérer aussi dans les milieux religieux au travers d'une tenue vestimentaire. Alors vous allez dire, oui, pour nous c'est strictement évident, on est bien d'accord, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais combien de fois on a vu des tenues vestimentaires pour démontrer, pour tenter de démontrer l'appartenance à un même corps? Dans le clergé, par exemple, on a des tenues pour essayer de démontrer l'unité, l'appartenance à un même corps. Pourtant, quand on considère le nombre de corps profanes ou religieux qui ont un uniforme, combien de mésententes, combien de conflits, combien de drames, combien de tragédies, combien de scandales, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on va porter le même costume, ce n'est pas parce qu'on va s'habiller pareil que demain on va être unis. Parce que l'unité, c'est beaucoup plus profond que ça. Pourtant, on pourrait même dire, mais au final, ces gens-là, ils ont quand même une cause commune. Oui, mais même la cause commune n'est encore pas suffisante. Tous ces corps sont uniformisés, mais en réalité ne sont absolument pas un, ne sont absolument pas unis. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une unité d'apparence. Des gens qui, malheureusement, ont une forme d'unité à l'extérieur, mais à l'intérieur sont tellement différents parce qu'ils n'ont pas le même caractère. Et pour nous, bien-aimés, le seul caractère qui soit garant de l'unité, c'est le caractère de Christ. Le secret de l'unité, c'est Christ est tout et en tous. Et tant que ça, ce n'est pas fait, ou tant qu'à minima, les membres de l'Église locale ne tendent pas vers ce modèle où c'est la priorité de ma vie, Christ doit être de plus en plus, il faut qu'il croisse et que je diminue, dit Jean-Baptiste, Christ doit être de plus en plus tout en moi, de plus en plus de lui et de moins en moins de moi. Lorsque tous les membres tendent vers Christ, ben forcément avec le temps on finit tous par se rejoindre. Et c'est comme ça que l'unité se constitue. Christ est tout et en tous. L'unité, ce n'est pas de l'uniformité. Plus subtil, l'unité, ce n'est pas du conformisme. Le conformisme, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir qu'un des synonymes forts, c'est soit orthodoxie, soit traditionnalisme. Le conformisme, c'est d'adopter les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, les mêmes façons de faire. Vous avez des églises où on est très friand de méthodologie. Vous avez des églises où on a constaté que, tiens, il y avait un truc qui avait marché ici. Ah ben tiens, on va le reproduire, on va prendre une forme, on va se conformer à ce que les autres ont fait, la façon dont ils se sont structurés, organisés, la façon dont ils ont évangélisé, la façon dont ils ont fait ci, ça et ça et encore ça. On le prend et on le reproduit dans une autre église. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça ne marche jamais. C'est voué à l'échec. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est anticonformiste, c'est Dieu. Dieu est réellement anticonformiste. Et le fait de vouloir adopter des pratiques, des formes, des façons de faire, des méthodes identiques, tout ça en réalité, alors je sais, oui, l'être humain aime bien les rites, les traditions, les formes, on aime bien ce qui est toujours pareil, parce que quelque part ça nous rassure, c'est sûr que ça nous enferme, ça nous sclérose, on tourne en rond dans la même prison, dans les mêmes limites, dans les mêmes... Mais on aime bien parce qu'on connaît par cœur, on sait exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est toujours pareil, c'est la même forme. Et puis, oui, mais en réalité, ça ne mène nulle part. Avec Dieu, quand vous faites bien attention à sa parole, il y a toujours le même fond. C'est la saine doctrine. Cette saine doctrine, elle est immuable. Malheur à celui, dit Jésus, qui touchera un iota, un trait de lettre de ma parole. La saine doctrine, le fond, est immuable. Et Dieu, sur le fond de la Genèse à l'Apocalypse, véhicule le même message, les mêmes principes du même royaume éternel. Et sur le fond, rien ne change, rien ne bouge. Par contre, au niveau des formes, le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans l'Ancien Testament. Mais si vous faites bien attention, il n'a jamais fait deux fois la même chose de la même façon. Et ça, c'est pernicieux même chez des hommes de Dieu, c'est pernicieux même chez des disciples, chez des responsables, des anciens dans les églises. Ça peut être pernicieux, cette tendance à aimer ce conformisme, les méthodes, les traditions, faire toujours les mêmes choses de la même façon, ça nous... et c'est toute la mentalité du roi Saül, pour prendre un exemple. C'est toute la mentalité du roi Saül. Il est là avec l'armée de Dieu, les Philistins sont devant, Goliath s'est levé, il invective le peuple de Dieu, il leur jette un défi, et là en réalité tout le monde est tétanisé, et personne ne sait ce qu'il faut faire ni comment faire. Et quand le Seigneur David, inspiré, qui est déjà loin par Samuel, inspiré par l'Esprit, David vient et dit, mais que personne ne perde courage par rapport à ce Philistin, et qu'il vient pour renverser ce Philistin, la première chose que Saül cherche à faire, c'est de le décourager. Oui, mais tu n'es qu'un enfant. Mais David insiste, il dit, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe de l'ours, de la patte du lion, etc., il va me donner la victoire sur ce Philistin, parce que c'est le même Seigneur, et ça ne peut pas être autrement, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, et il ne change pas. Donc c'est gagné d'avance. Oh, souriez, relevez vos têtes, c'est gagné, on va le renverser. Ce n'est pas nous qui sommes en danger, c'est lui qui est en danger. Ce n'est pas nous qui sommes entre ses mains. C'est lui qui n'a pas compris que l'Éternel le livre entre nos mains, et je vais vous le prouver. Et à ce moment-là, Saül fait quelque chose qui aurait pu, pardonnez-moi, mais flinguer la victoire de David. Il lui dit quelque chose, ça passe inaperçu dans les textes, mais il lui dit, prends au moins mon armure. Si tu veux y aller, vas-y, je ne peux pas t'en empêcher, tu as un appel, vas-y. Mais je t'en prie, prends au moins mon armure. Il a essayé l'armure de Saül, et vous lirez, ça c'est une des choses les plus extraordinaires de ce passage. David a dit, il s'en est débarrassé, Il a dit, je ne peux rien faire avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en est débarrassé. Pourquoi ? Parce que derrière ça, il y a l'image d'un homme, Saül, qui était conformisme et qui voulait entraîner David dans ses formes, dans ses méthodes, dans sa façon de faire. Parce que Saül avait beaucoup plus confiance dans l'armure qui lui avait fait vaincre des Philistins par le passé que dans le Dieu qui pouvait lui donner toutes les victoires dans le présent. Et il était plus confiant dans des formes que dans le Dieu, pardon, tout-puissant. Et lorsque David a vu cela, David n'a pas dit, « Oh, mais vous savez, frère, moi, je me souviens d'une époque où pour renverser des murailles, on tournait autour. Alors moi, je me souviens, le pasteur Josué, il avait... C'est bon. Ils ont tourné une fois autour des murailles. Ça s'est fait une fois, ça ne s'est plus jamais fait. Oui, mais peut-être, vous savez, moi, je me souviens du frère Intel. Pendant un temps, oh, quelle audace! Il avait pris des cruches et des flambeaux, le pasteur Gédéon, pour aller vaincre les Madianites, et ça avait marché. Oui, mais Jéricho, c'était Jéricho. Les Madianites, les cruches, c'était pour une fois. Tout ça, ce sont des formes, ce sont des méthodes, c'était à usage unique. Tout ce que Dieu a fait des choses merveilleuses, mais sur les formes, à chaque fois, c'était du one shot, pour une fois, et ça ne s'est jamais refait. Faites bien attention. Et puis, David n'a pas dit, « Ah, mais moi, je me souviens du pasteur Samson. » Vous savez, un jour, il a pris une mâchoire d'âne fraîche, et il a liquidé 1000 Philistins avec une mâchoire. Bah, du coup, si je prends une mâchoire d'âne, forcément, je vais avoir Goliath. Non, non, non. Parce que le passé, c'est le passé, les formes, ce sont les formes, tout ça, on laisse de côté, et je ne suis pas attaché à des formes, je suis attaché au Dieu qui est capable de me donner toutes les victoires. Vous regardez Jésus, les apôtres après lui, regardez Jésus, tous les miracles sont plus extraordinaires les uns que les autres. Jésus n'a pas fait deux miracles de la même façon. Pourtant, il en a fait des centaines et des milliers, puisque en vérité, tout n'est pas rapporté. Mais de ce que nous avons, ce sont déjà des centaines de miracles, et même plus encore. Mais vous faites bien attention, Jésus n'a jamais fait deux fois un miracle de la même façon. L'unité, ce n'est pas d'adopter des formes et des méthodes, non plus. Et puis un point qui est extrêmement important, il faut que ce soit très clair, je prends le temps d'expliquer ces choses, parce que ça va sur Internet, vous le savez. L'unité n'est absolument pas, mais alors surtout pas, parce que ça c'est une sérieuse tendance de notre époque, ça va grandissant, ça devient un véritable fléau, c'est un piège diabolique, c'est réellement un fléau, c'est réellement un problème, ce n'est surtout pas de l'œcuménisme. L'œcuménisme, bien aimé, c'est un mouvement qui préconise l'unité de toutes les religions en une seule. L'œcuménisme qui a, en vérité, un message très séduisant de respect, d'amour, de fraternité, de liberté, de sincérité. Mais derrière tout cela, l'œcuménisme, en réalité, est pernicieux parce que l'unité, dans ce cas-là, je mets des grosses guillemets, ce n'est pas de l'unité, cette forme d'unité se fait au détriment du message. C'est-à-dire qu'il va falloir que chaque religion qui veut adhérer à ce grand mouvement œcuménique qui est déjà en marche, parce que l'issue de cet œcuménisme, ne nous leurrons pas, c'est la grande prostituée qui est assise sur le dragon, portée par Satan lui-même dans le livre de l'Apocalypse. Et cette unité, je mets des grosses guillemets, se fait au détriment du message. C'est-à-dire qu'il va falloir que chaque religion enlève de sa confession de foi, il va falloir qu'elle gomme les points qui fâchent le voisin. On me traitera de ce qu'on veut. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que moi, ego et mi, je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Quand on a dit ça, on a tout dit. Jésus a dit, je suis le chemin. Je ne peux pas le gommer. Je suis la vérité. Je suis la résurrection, la porte, le cep, le pain de vie, le berger. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Et les autres, c'est pas que je les aime pas. Je me sens pas supérieur. C'est pas que je les respecte pas. C'est que je ne peux avoir aucune forme de collaboration, de travail. Je ne peux avoir aucune forme d'unité avec eux. Parce que l'œcuménisme, c'est une atteinte au fondement de la saine doctrine. Et il ne pourra jamais y avoir d'unité au détriment de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Le fondement de l'unité, la saine doctrine, c'est Jésus lui-même. Rendez-vous compte. Lorsque, après avoir établi les 12, vous lisez Luc chapitre 10, Jésus a établi un autre groupe de disciples. Il a établi les 70. Et lorsqu'il a établi les 70, on s'aperçoit que c'est dans l'évangile de Jean, le premier des « Je suis » de Jésus, c'est « Je suis le pain de vie ». Et déjà là, ce caractère exclusif, incontournable, implicitement de ce que Jésus va prononcer, non seulement va choquer la foule, et d'ailleurs, si vous regardez bien dans l'histoire du ministère de Jésus, à partir de « Je suis le pain de vie », le premier des sept « Je suis », à partir de ce moment-là, Jésus il commence à perdre la foule. Elle est toujours là pour les miracles, etc. Mais Jésus commence à perdre les gens, il commence à perdre la foule, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas d'accord. Et puis il y a ces 70 qui, eux, vont dire « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et puis qui vont dire « non, on se retire ». C'est sur un point de doctrine fondamentale que les 70 se sont retirés. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Ah, attendez, attendez, parce que peut-être j'ai pas été clair. Peut-être il faut que je vous réexplique que mes paroles sont esprit, ce que je vous ai dit. Vous savez, vous avez peut-être pas tout bien. Je vous réexplique parce que non, partez pas, c'est dommage. 70 disciples appelés. Jésus les a regardés partir. Il n'a même pas essayé de les retenir. Ce n'est pas qu'il ne les aimait pas. C'est que nous ne pouvons bien aimer, nous ne pouvons aimer personne. Je vous aime, hein, alléluia. Mais je ne peux aimer personne plus que la doctrine elle-même. C'est le fondement de l'unité. Il ne peut pas y avoir d'unité au détriment de la saine doctrine. Et Jésus avait très bien compris qu'avec les 70, ça poserait problème. Il le savait, il les a quand même appelés, c'est instructif pour nous. Il fallait que ce soit révélé, c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est pour ça que Jésus les laisse partir. Jésus aime tout le monde. Amen. Logiquement, nous aussi, on aime tout le monde. Mais on ne sera pas d'accord avec tout le monde. Et on ne sera pas unis avec tout le monde. Et je ne peux pas être un avec des religions, des mouvements qui n'ont pas la même doctrine. Je ne sais pas comment c'est ici à Aubagne, je ne suis pas ici depuis assez longtemps. Mais je peux vous dire qu'à Manosque, plusieurs fois, des tentatives, des tentations, des pressions œcuméniques, ah, j'en ai eu quelques-unes, ouais. Et il a fallu tenir la barre, il a fallu tenir bon, dans l'amour et dans le respect, dire, écoutez, ouais, mais enfin bon, écoutez, on a le même Dieu quand même, puis il y a des chrétiens, pardonnez-moi, ils se laissent embobiner, ouais, on a le même Dieu, on ne l'appelle pas pareil. Non, pardon, nous, on me mettra en prison, c'est pas grave, on viendra me taguer ma voiture, peu importe, nous n'avons pas le même Dieu. Dieu dit bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, je suis le seul Dieu vivant, unique, vrai, véritable et qui sauve. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Pardon, j'aime tout le monde. Nous ne pouvons pas être faibles, bien aimés. L'amour, l'unité, ce n'est pas du laxisme. Ça signifie, c'est dur, que derrière n'importe quelle autre religion, n'importe quel autre Dieu, quel que soit son nom, pardon, il y a des démons. Et pour dire ça, je ne sais pas bientôt si ça ne va pas me coûter très cher. Je suis le seul Dieu vivant et vrai qui sauve en dehors de moi, dit Dieu. Il dit Yahvé, Jésus incarné, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Donc je peux aimer, je peux parler, je peux témoigner, je peux respecter. Je ne peux pas être un. Nous ne ferons pas de réunion ensemble. Non, on ne fera pas une petite réunion de louange ensemble. Non, on n'aura pas une action dans les quartiers ensemble. On m'en a dit, on m'en a proposé, j'en ai entendu plus que de raisons. Non, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas. Mais vous comprenez, monsieur le pasteur, nous aussi, on est des gens sincères. Nous aussi, on aime Dieu. Et puis, il n'y a pas que Jésus, mais il y a David. Et puis, il y a Pierre. Et puis, il y a. Non, non, non. Quand on a dit Jésus, tout le monde s'efface. Tout le monde se prosterne ou tout le monde est perdu. Mais quand on a dit Jésus, on a tout dit et nous ne ferons pas de compromis sur la saine doctrine. Nous pouvons avoir de l'amour, du respect, mais rien de plus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, certes, dit Paul à Timothée, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pas une vérité, pas ta vérité, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons effectivement, sur cette base-là, avoir une véritable unité. Mais en dehors du fondement de la saine doctrine, j'ai de l'amour, j'ai du respect, j'ai de la bienveillance, mais je ne peux avoir aucune forme d'unité. Quand vous pensez, on va voir ensuite les formes, maintenant ce qu'est l'unité, mais quand vous pensez, relisez bien le livre de l'Apocalypse, notamment les lettres de Jean qu'il a envoyées aux sept églises. Il y a une église qui s'appelle Pergame. Et à cette église, Jésus dit lui-même, « Il est vrai que tu n'as pas renié la foi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as en ton sein des gens qui sont attachés à d'autres doctrines. » Tu les as tolérés. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as en ton sein des gens qui sont attachés à d'autres doctrines. Tu n'as pas embrassé ces doctrines. Tu n'as pas, renié la foi. Mais tu as toléré en ton sein des gens qui avaient une autre doctrine. Bien-aimé, le message de l'Évangile est certes le plus beau, le plus magnifique, le plus merveilleux qui soit. Il n'y a pas dans toute l'histoire de l'humanité un message qui soit plus merveilleux que le message de l'Évangile. Je ne connais aucun autre message qui soit aussi inflexible que celui-là. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de discussion. Il n'y a pas de marge de négociation. Avec ce que Jésus a fait, avec qui il est, avec la dimension d'amour manifestée à la croix, Jésus a largement le droit d'être inflexible et de dire « Si vous ne croyez pas que moi je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. » C'est sérieux, n'est-ce pas ? Inflexible. Merveilleux, mais inflexible. Maintenant qu'on a bien compris ces choses, on va aller plus loin sur ce qu'est l'unité. Être un, c'est quoi ? Eh bien, on a quelques exemples dans la parole. Rapidement, les deux premiers, je m'étendrai un peu plus sur le troisième avant la scène. Être un, nous avons cet exemple, et Jésus en parle dans sa prière sacerdotale, être un comme le Dieu trinitaire est un. Un seul Dieu, en trois personnes, preuve qu'il n'y a pas de conformisme ou de forme identique, un seul Dieu, nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu, mais dans ce Dieu éternel qui s'appelle Yahvé, dans ce Dieu, il y a trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui ont des fonctions différentes, mais qui forment un seul et même Dieu. C'est le miracle, peut-être un jour, je ne vous fais pas une étude là-dessus, peut-être qu'un jour je le ferai, c'est réellement le miracle de la Trinité. Il y a vraiment énormément de choses à comprendre, c'est extrêmement profond, la Trinité, ça vaut le coup de le vivre et de le comprendre. Mais comprenons bien pour ce matin, un seul Dieu en trois personnes. Et ces trois personnes, sans aucun décalage, dans leur caractère, dans leurs sentiments, dans leurs messages, dans leurs objectifs, dans leur amour, dans leurs attributs, aucun décalage, aucune contradiction entre le Père, le Fils et l'Esprit, entre le Père et le Fils, aucun décalage. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Aucun décalage entre le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Puisque Jésus dit bien, lorsqu'il promet l'Esprit à ses disciples, il leur dit, vous connaîtrez que je suis en vous. Parce qu'il n'y a aucune différence entre lui et l'Esprit. Pourtant, ce sont bien deux personnes distinctes. Jésus est remonté au ciel dans un corps glorifié. Il a envoyé le Saint-Esprit qui a pris la place dans le cœur des apôtres. Mais qui est dans mon cœur aujourd'hui ? Qui me fait vivre ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus, il est au ciel, il est dans la gloire, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et qui vit en nous aujourd'hui? Qui est là dans nos cœurs et dans nos rassemblements? Qui poursuit l'œuvre de Jésus au travers des apôtres, au travers des disciples que nous sommes? Bien, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père n'a jamais quitté le ciel. Dieu le Fils a quitté le ciel. Il a pris, dit Paul aux Philippiens, une forme de serviteur. Il a été incarné. Et puis, après sa résurrection, il a un autre corps que nous aurons, nous, plus tard aussi, à notre résurrection. Et avec ce corps, Jésus rentre dans la dimension spirituelle céleste, un corps avec d'autres propriétés métaphysiques. Et en réalité, il n'y a, même si, en fait, il n'y a aucune différence dans le caractère, dans les attributs, ce sont simplement des différences au niveau de la fonction, au niveau de la forme, au niveau de l'œuvre qu'ils accomplissent. Dieu le Fils a pris une forme de serviteur. Les actes des apôtres disent qu'il allait de lieu en lieu, parfaitement rempli du Saint-Esprit, mais à ce moment-là, Jésus n'est plus omniprésent. Il est dans un corps qui est soumis aux mêmes réalités terrestres que nous. Et puis le Saint-Esprit, lui, ben, il est toujours omniprésent. Et aujourd'hui, Jésus est dans la gloire, dans son corps glorifié. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vit dans le cœur des disciples. Et ils sont identiques en tout point, mais il y a des formes et des œuvres différentes, avec une cohésion, une harmonie parfaite. Être un, c'est à ça que Jésus pense. Quand il dit « Je te prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un », être un comme le Dieu trinitaire est un. Ah oui. Et puis, les 66 livres de la Bible, des types, des récits, des symboles, des auteurs, des personnalités, des sensibilités, des arrière-plans différents. Moïse est certes un érudit, Amos était un berger, etc., etc. Et on s'aperçoit que, en lisant la Bible, on s'aperçoit que Moïse n'est pas David, que David n'est pas Malachi, Malachi n'est pas Amos, que Paul n'est pas Pierre, Pierre n'est pas Jean, Jean n'est pas Jude. On sent des sensibilités, des personnalités différentes. Ce sont des auteurs différents, mais qui véhiculent le même principe, les mêmes principes, le même message éternel, inspiré, infaillible, le même message éternel, un message unique, harmonieux et parfaitement cohérent. 66 livres, une quarantaine d'auteurs, mais le même unique message, la Bible. En 66 livres, pas en 73. C'est important de le préciser. Et puis le dernier point, c'est aussi ce que nous célébrons, on se disait tout à l'heure, quand nous pratiquons le repas du Seigneur, l'unité du corps. L'unité du corps, c'est être un comme le corps est un. Si je ne me trompe pas, je n'ai qu'un seul corps et vous aussi. En même temps, je suis content parce que j'ai déjà assez de boulot avec un corps. Et il y a dans ce corps différents membres, différentes formes, différentes fonctions. Mais le corps fonctionne comme une unité parfaitement coordonnée. Les membres n'ont pas la même forme, les membres n'ont pas la même fonction, mais comme dit Paul, 1 Corinthiens 12:12, le corps, comme le corps est un et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un, ainsi en est-il de Christ. Je ne vous ai pas fait chercher, vous avez la référence sous vos yeux. Les membres ont des formes et des fonctions différentes, mais au service d'un seul et même corps. Mon foie a une forme et une fonction différente de mon cœur. Mon poumon a une forme et une fonction différente de la rate. Mon genou, c'est extraordinaire le genou, hein, faire des trucs, et ça c'est fantastique. Hein. Et mon genou, il arrive à faire, il ne faut pas que je tombe, hein. Mon genou, il arrive à faire des trucs exceptionnels. Mais mes poumons, ils ne savent pas faire ça. Donc j'ai besoin de mes poumons. Par contre, mon genou, lui, il ne peut pas faire ce que mes poumons ils font. Hein. Donc il faut absolument que l'ensemble de ces membres, qui sont tous tellement différents, tous aussi merveilleux les uns que les autres, de formes différentes et de fonctions différentes, s'assemblent, parfaitement reliés, unis les uns aux autres, à Christ, la tête, comme dit Paul aux Colossiens, et puis ensuite reliés les uns aux autres, parce que nous avons, sans nous en rendre compte, des tas de terminaisons nerveuses. Tous les membres du corps ont une relation directe à la tête, parce que ce qui est extraordinaire, vous pouvez essayer de le faire, vous ne le voyez pas, mais là, même sans bouger mon corps, j'arrive à bouger mes doigts de pied. C'est super, hein ? On est vraiment bien fait, hein ? Le Seigneur, il a vraiment bien pensé le truc. Et j'arrive à bouger mes doigts de pied, et vous aussi, sans que le reste du corps ne bouge. Pourquoi ? Parce que chaque membre a une liaison directe à la tête. Chaque membre a une liaison directe à Christ qui est la tête. Mais les membres aussi sont reliés les uns aux autres. Ce qui fait que, essayez, c'est très compliqué. Vous essayez de bouger un doigt et pas l'autre, de le lever. Ah, vous sentez qu'il y a quand même une interdépendance. On a besoin les uns des autres. Et c'est la coordination de mes doigts qui font la puissance de ma main. C'est la coordination de mes jambes qui font la marche et qui font que je peux avancer, etc., etc. Et là, il faut vraiment pas seulement insister ensuite sur la diversité, la complémentarité, nos acquis, nos points communs en Jésus, etc., nos relations les uns avec les autres. On en parlera beaucoup des relations plus tard. Mais pour terminer, je veux parler aussi de l'attitude du cœur, de l'état d'esprit, de la vision, des objectifs, des sentiments. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé en réfléchissant à tout ça, c'est que l'unité n'est pas seulement un rassemblement physique. L'unité, ça va encore bien plus loin que ça. Et je dresse une petite ébauche en conclusion, mais on va continuer la semaine prochaine, les semaines suivantes. Mais c'est bien plus qu'un rassemblement physique. Quand on regarde un petit peu les actes des apôtres, mais pas que, mais en l'occurrence, c'est là qu'il va commencer à y avoir un miracle d'unité sans précédent. Et ce miracle d'unité commence en acte 1, verset 14. Puisqu'on s'aperçoit que tous, d'un commun accord, ils étaient déjà dans le même lieu, et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Il y avait un commun accord. Ah, je peux vous dire que dans les églises, pour que tout le monde soit d'accord, bon, il peut y avoir des désaccords, bien sûr, mais la parole règle toujours et nous remet toujours, elle nous aligne toujours sur le fil à plomb. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, acte 1, 14. Ensuite, acte 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça m'a souvent interpellé. Ils n'étaient pas tous dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Parce qu'on peut être tous dans le même lieu, mais pas ensemble. On peut être tous dans le même lieu, mais pas ensemble. Et puis, quand on regarde ensuite la multitude, déjà Pierre et Jean, j'en ai parlé la semaine dernière, je ne m'étends pas, mais c'est déjà un miracle. Le plus beau miracle, ce n'est pas que le boiteux qui était à la porte du temple, qu'on appelait la belle, acte 3, le plus beau miracle, ce n'est pas que cet homme ait été guéri. Le plus grand miracle qui a libéré l'onction et la puissance du Saint-Esprit, c'est que Pierre et Jean, ils ont marché ensemble. C'était pas tiens, tu me prends, tu peux m'emmener, je vais à la réunion, bah tiens, prends-moi en passant. Eh bien, on peut être dans la même voiture, on peut aller à la même église, on peut aller à la même réunion, on peut être mis au bénéfice des mêmes enseignements, on chante les mêmes chants. C'est pas pour autant qu'on est ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple et ils n'avaient jamais eu une telle unité. L'apôtre Paul insiste. Puisqu'il existe des quelconques consolations en Christ, rendez ma joie parfaite. Ayez en vous, Philippiens, un même amour, un même sentiment, un même cœur, une même âme, une même pensée. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ça va vraiment dans les motivations, dans le caractère, dans l'amour, dans le cœur, dans les sentiments. Où vraiment, à partir du livre des Actes des Apôtres, 1,14, là, il commence à y avoir quelque chose de particulier qui se crée réellement en termes d'unité. Et c'est ce qui va permettre ensuite au Saint-Esprit, puisqu'il est réjoui, puisque Dieu, en voyant cela, se reconnaît lui-même, lui le Dieu trinitaire, à partir de ce moment-là, l'effusion de l'Esprit va avoir lieu. À partir de ce moment-là, l'Esprit va pouvoir donner la pleine mesure de ce qu'il est. Vous voyez, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël, Barthélemy, Philippe, André, Thomas. Vous voyez les disciples, avant acte 1, 14, ils étaient mis au bénéfice des mêmes enseignements. Et ce n'était pas Brion qui prêchait, c'était Jésus lui-même. Ils étaient mis au bénéfice des mêmes enseignements. Ils voyaient les mêmes miracles. Ils fréquentaient, excusez-moi, en s'asseyant au pied de Jésus qui enseignait, on va dire qu'ils étaient dans les mêmes réunions. Ils avaient le même Seigneur. Ils avaient le même appel à le suivre. Ils avaient, on peut le dire ainsi, ils avaient la même Bible. De toute façon, Jésus étant la parole incarnée devant eux, ils ne l'avaient pas comme nous, mais ils avaient Jésus incarné devant eux, la parole faite chair. Ils avaient la même Bible. Et pourtant, combien de différends, combien de chicaneries, combien de querelles, combien de rivalités. Parce qu'en réalité, ils vivaient l'Église de façon non pas complémentaire, non pas coopérative, ils vivaient l'Église de façon concurrentielle. Ils vivaient l'Église centrée sur eux-mêmes, ils vivaient l'Église de façon individualiste. Tous, ils étaient dans le même lieu, mais il vivait de façon autocentrée, égocentrique. Il vivait l'Église de façon individualiste. C'est pour ça, bien-aimé, que le Seigneur a permis qu'il se plante et qu'il se plante tous et que tout ça, ça s'effondre. Parce qu'une fois qu'ils ont tous chuté, une fois qu'ils étaient tous à la ramasse, une fois qu'ils étaient tous brisés, sur cette base-là, ils avaient le premier point d'accord véritable qu'ils n'avaient jamais eu. Et le point de départ, ce n'est pas la Pentecôte. La Pentecôte est une conséquence. Le point de départ, c'est Acte 1,14. C'est la première fois qu'on les voit tous ensemble. Persévérer dans la prière, parce qu'on peut prier mais pas être ensemble, d'un commun accord. C'est la première fois qu'ils sont là d'un commun accord. Et à partir de ce moment-là, sur la base, bien-aimés, de nos échecs, de nos ratages, de nos fautes, des catastrophes qu'on peut connaître les uns et les autres dans les églises. Ce qu'ils ont traversé, le pire, leur échec, est devenu l'occasion d'une unité sans précédent. Et voyant cela, le cœur de Dieu a été profondément réjoui de voir qu'enfin, ils étaient un. Alors le Saint-Esprit a pu être répandu avec puissance. Et il y a toute la suite de l'histoire que l'on connaît. À partir de ce moment-là, ils vont vivre des effusions successives, des actions de l'Esprit sans précédent. Le livre des Actes est un livre qui est passionnant, enthousiasmant, ça nous booste de lire ça, parce qu'il nous montre une multitude de choses, de bénédictions, de miracles, sans précédent. Dans les Actes, on est d'accord, c'est sans précédent. Et Jésus avait dit, « Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes. » Et ça s'accomplit dans le livre des Actes. Donc c'est réellement... Oui, il y a des miracles sans précédent. Mais dans le livre des Actes des apôtres, il y a une soif de Dieu sans précédent. Il y a une vie de prière sans précédent. Il y a une consécration sans précédent. Il y a une obéissance sans précédent. Il y a une sainteté sans précédent. Il y a un zèle sans précédent. Une compassion pour les âmes sans précédent. Mais il y avait aussi et surtout une unité sans précédent. Jamais ils n'avaient été unis comme ils étaient unis à ce moment-là. Et toute cette explosion de vie, bien-aimés, toute cette explosion de miraculeux était réellement impossible sans l'unité. L'unité, c'est le miracle par excellence qui réjouit le cœur de Dieu parce que là, il reconnaît sa propre nature dans son épouse et à ce moment-là, le Saint-Esprit étant non plus attristé mais parfaitement réjoui, peut commencer à relâcher sa présence et sa puissance et donner la pleine mesure de ce qu'il est. Est-ce que les Actes des apôtres, ça vous intéresse? Vous en connaissez maintenant le chemin. L'unité est le fondement et la clé d'une effusion de l'Esprit sans précédent. Merci Seigneur. On continuera dans les semaines suivantes sur cette thématique de l'Église et plus particulièrement de l'unité. J'en reste là pour ce matin. Merci de votre patience. On va se recueillir, on va prier s'il vous plaît. Et puis on va ensuite écouter une lecture de la parole de Dieu. Pour ce temps du repas du Seigneur. Et on va pouvoir recentrer encore nos cœurs et nos âmes sur ce que le Seigneur a fait, pas seulement pour moi, pas seulement de moi, Mais ce qu'il a fait